La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Alors, mon cher ami, l'heure est au bilan en ce début d'année parce que faut regarder un peu nos placements. Ça fait quoi, là, 4 mois après le début de l'année financière? Comment va la bourse? Comment est le rendement? Quelles sont vos pertes? Etc., etc., etc.
Dans les années 90, il y avait une publicité de Bleu-Net 2000 chasses d'eau. Oui, c'est ça, 4 mois. Puis là, c'est comme ça que je me sens ce matin. On est à 4 mois. On a payé notre facture fiscale hier, évidemment. Mm-hmm. On a tout fait un chèque. Et on se retrouve maintenant avec une réalité que des auditeurs remarquent que leur portefeuille a baissé. Et ça dépend de chacune des personnes. Il y a des gens qui ont des problèmes du type « Pierre-Yves, j'avais mis une mise de fonds de maison. Je me retrouve avec 20 % de moins, comment ça? » Ben, si vous avez mis de l'argent dans vos placements pour une mise de fonds de maison, il serait bien important de comprendre que votre objectif est court terme et que votre rendement va vaciller. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée. Et quand on regarde les coupables, il y a 2 coupables qui étaient insoupçonnés de certains investisseurs. Un, les obligations. Beaucoup de gens ont des portefeuilles équilibrés puis ils se disent « Pierre-Yves, j'ai un portefeuille équilibré, comment ça se fait que même si j'ai un portefeuille équilibré, un portefeuille prudent, j'ai perdu du rendement? » Bien, parce que vous aviez des obligations puis les obligations ont peut-être moins performé que prévu à cause évidemment des taux d'intérêt. Et du côté des technos, vous avez reçu un coup de 2x4 en pleine face si vous étiez surpondéré en techno. Netflix depuis le 1er janvier, perte de 67 %. Tesla, 15 % de perte. Facebook, 37. Amazon, 25. Alphabet, donc Google, près de 20. Le Nasdaq a perdu 20 %. Donc, c'est normal que vous ayez perdu du rendement si vous étiez techno ou vous aviez des obligations. En fait, pas mal tout le monde a perdu de l'argent, je vais être bien honnête, à moins que vous soyez spéculatif et que vous réussissiez à vendre au bon moment puis acheter au bon moment. Maintenant, sur le côté macro puis micro, évidemment, il y a plusieurs facteurs. Oui, il y a les taux d'intérêt, il y a l'inflation, il y a la fin des mesures interventionnistes qui ont été payantes pour les indices boursiers parce que les gens investissaient, disons, leur surplus de liquidité en bourse. T'as la guerre en Ukraine, puis présentement, il y a un goulot d'étranglement dans la chaîne parce qu'en Chine, on n'a pas l'approvisionnement qu'on veut. Donc tout ça met une année négative dans la mire des investisseurs. Donc peut-être qu'en 2022, vous allez vous trouver avec une année avec vos placements négatifs. Ça se peut. Et pour ceux qui ont fait du rendement dans les dernières années, seront estomaqués de ça. Mais c'est parce qu'on l'a oublié, Paul. On a tellement fait des bonnes années et des bons rendements au cours des derniers mois qu'on a oublié ça. Donc, depuis janvier, c'est un signe de rendement négatif à la bourse cette année potentielle. Évidemment, il y a des secteurs moins touchés, comme les banques, par exemple. Prends la Banque Royale, a perdu juste 3,4 % depuis le début de l'année. Mais M. Trudeau, évidemment, est allé piger dans les bénéfices des banques au-dessus d'un milliard qui seront taxés davantage ou imposés davantage. Donc, tu vois, il y a ça. Puis cette année, on voit un indice canadien qui pourrait, disons, performer mieux par rapport à l'indice américain si on compare aux années passées où, par exemple, les indices américains ont très bien performé en 2021.
Les gens qui trouvent ça, en tout cas, je le vois par les courriels, là, qui trouvent ça particulièrement difficile, ce sont les gens qui sont à la retraite ou qui... On appelle des rentiers, là, puis qui dépendent des revenus de placement.
Ils ont deux impacts, eux. D'un côté, ils ont l'inflation.
Oui, c'est ça que j'allais te dire, oui.
Puis de l'autre côté, ils ont leur placement, puis tu es à un âge où tu veux commencer à prendre moins de risques. Donc, tu as des portefeuilles quand même équilibrés, parce que tu te dis, on n'est plus le 65 ans d'il y a 30 ans. Tu sais, à l'époque des années 80, tu prenais ta retraite à 65. Puis t'avais une espérance de vie, tu dis à 75, 80, je vais être passé de l'autre côté. Mais maintenant, des fois, tu as encore 20, 25 ans à planifier. Donc, tu prends un petit peu plus de risques que tu prenais à une autre époque pour être capable d'atteindre des rendements intéressants pour payer ta retraite. Puis là, tu te retrouves à voir ton capital fondre un peu et de l'autre côté, payer l'inflation, c'est sûr que ça fait mal.
Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Entre-temps, tu as des nouvelles de ce qui se passe chez Coca-Cola.
Ouais, je regarde Coca-Cola. C'est un titre que j'aime bien. Pas en boire parce que c'est pas bon pour mon tour de taille, mais pour le reste parce que Coca-Cola, depuis le début de l'année, a fait 7%. Donc, dans tout ce brouhaha, dans toute cette folie où les gens perdent du rendement, ben, il y a Coke qui reste là. Puis, j'aime ça Coke pour une raison. Quand il y a une pandémie, c'est un peu comme la bière, pas une pandémie, mais tu sais que t'as une période inflationniste ou qu'il y a du chômage ou quoi que ce soit, les gens continuent à boire du Coke. Et Coke, c'est évidemment à diversifier, mais quand tu regardes le prix que les actionnaires paient présentement pour Coke par rapport aux bénéfices, ben, on est dans des ratios qui sont plus élevés que Facebook et semblables à Apple. Et évidemment, c'est quand même surprenant, mais Coke continue de se développer. Tout ce qu'on met dans notre bouche pour boire, ben, Coke veut nous le vendre. Et je te donne un exemple. Coke est dans le lait. T'sais, Coke a Fair Life et vient de payer d'ailleurs 21 millions de dollars aux plaignants de Coke collectif parce que on n'avait pas le traitement, disons, des animaux qui était prévu dans toutes les fermes qui fournissent Fair Life. Et quand on regarde les marques, mais ça va de l'eau à Barks, hein, le soda racinette, à Body Armor, à Vitamin Water. Il y a ton jus d'orange, ton eau de source, ton lait. Donc, Coke réussit à s'intégrer partout. Mais surtout, le modèle d'affaires de Coke, c'est acheter de l'espace tablette, acheter des restaurants, hein, dans le fond, le réseau de distribution, pas l'acheter, mais donner un prix pour que le restaurant prenne le Coke en fontaine, acheter l'espace tablette en dépanneur à l'épicerie pour que finalement, Coke fasse partie de ta vie, même quand tu penses qu'il ne fait pas partie de ta vie. Il y a des gens qui achètent de l'eau, ils disent « Moi, je bois pas ça du Coke, c'est pas grave, t'achètes de l'eau embouteillée à même l'aqueduc. »
T'as vu Elon Musk la semaine dernière qui a fait une blague en disant qu'il était...
Oui, je vais remettre de la Coke dans le Coke.
Oui, je ramène la cocaïne dans le Coke puis je vais acheter des actions de Coca-Cola.
Ben écoute, puis tu vois, juste un petit tweet de même, ça peut influencer, mais quand on revient à la réalité, il y a quand même une hausse de 16% au dernier trimestre des revenus de Coke. Donc, puis on nous dit, regardez, on fait 10,5 milliards de revenus, mais 2,8 milliards de bénéfices nets. On s'entend, là, on vend de l'eau sucrée, du jus sucré, de l'eau vitaminée, on vend du lait, puis on réussit à faire une marge incroyable. La marge d'opération est de 32-33%. Donc, tu sais, ça va bien chez Coke quand même.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, bonne journée.